Donc, que Québec se lève, personne n'en parle.
Quand même un bon thème. Hein,
ouais, ça va. Ça personne n'en parle. Ce segment d'entrevue avec vos personnalités publiques préférées lors desquelles on fait notre gros possible pour parler de ce dont personne ne parle. Mon prochain invité, vous le connaissez, il est pianiste, danseur, chanteur, chef de chœur, animateur de télévision, animateur de radio, comédien, musicien, auteur, compositeur, interprète et entrepreneur.
C'est tout vrai, c'est pas juste à temps partiel.
Non, c'est tout vrai.
12 puis des fois 1. Non, c'est vraiment tout ça.
Il s'agit de Grégory Charles. Bonjour Grégory.
Bon matin à tous les deux.
Salut Grégory.
Tous les trois.
Par quoi on commence, Grégory?
Ouais, c'est
écoute,
ça.
J'ai trouvé ça drôle que tu fasses un signe d'épuisement parce que ça arrive ouais. C'est occasionnellement. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a bien des affaires qui m'intéressent dans la vie. Il y a bien des choses que j'aime. Légendairement, je dors pas beaucoup. Je viens d'une famille de gens qui étaient très modestes, mais qui aimaient ça les projets. Mon père aimait les projets, ma mère aimait beaucoup les projets. Fait que qu'est-ce que on résiste pas à ça. Et puis j'ai été assez chanceux pour que petit, on m'aide à déployer mes habiletés, ouais, et mes intérêts. Fait que c'est ça. Ça a donné ça. Ça a donné aussi un gars un peu indécis. Peut-être que j'aurais dû plus tôt dans ma vie faire un choix ou faire deux ou trois choix, mais à la place, chaque fois.
Bon, on peut pas dire que c'est une façon de faire qui t'a nuit, là.
Non,
bien au
non.
Contraire.
Non, ça n'a pas nuit. Puis, mais quand même, après un certain nombre d'années, tu te dis, ah ouais, si j'avais pas fait ça à ce moment-là, peut-être que j'aurais eu le temps, le focus.
Ben, c'est que à une autre échelle, moi, je vis des affaires comme toi, t'as vécu, c'est-à-dire, tu viens toujours d'ailleurs.
Oui.
Tu sais, quand t'es devenu chanteur, tu t'es comme, c'est qui lui pour, tu sais?
C'est drôle.
Tu viens toujours d'ailleurs.
C'est drôle parce que même dans l'industrie elle-même, là, dans le show business lui-même, malgré, tu sais, j'ai vécu et participé à des succès, et à chaque fois que j'avais un nouveau projet, on me disait, oh, mais tu vas faire ça
ouais,
comment? Comment ça va marcher? Et il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Les gens, des fois, se disent, c'est parce que je suis pas capable de travailler avec d'autres. Il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même parce que, après être allé voir les usual suspects, là, après être allé voir les gens qui font ça, qui produisent des disques, qui produisent de la TV, qui produisent, ouais, après être allé les voir puis qui me disent, moi, non, pense pas que ce projet-là va marcher, fait. Et, puis des fois, ils ont raison. Mais des fois, ils ont pas raison.
Ben ouais,
c'est ça. Moi, je suis pas, j'entendais le dernier mot, l'entrepreneur. Je me sens pas comme un entrepreneur naturel.
Okay.
C'est pas comme si...
Mais pourtant, c'est pas mal la description de tous les entrepreneurs qui ont eu du succès, qui disent, ben, des fois, j'ai fait des bons coups, des fois, je me suis planté complètement. Mais...
Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça, c'est sûr que t'es un vrai entrepreneur, tu te pètes la gueule plus souvent que tu réussis. Puis, en ce que je pense que les autres sont comme moi, quand tu réussis, c'est jamais comme tu pensais. Puis quand t'échoues, c'est jamais comme tu pensais non plus.
Ouais.
Mais la raison pour laquelle je disais que je suis pas sûr que je suis un entrepreneur naturel, c'est que mon premier réflexe, c'est jamais de le faire moi-même. Mon premier réflexe, c'est toujours d'appeler les gens qui, à mon sens, ou d'après leur réputation, sont les meilleurs pour faire ça. Moi, quand j'ai commencé à faire du spectacle, par exemple, je suis allé voir Guy Latraverse, je suis allé voir les producteurs Juste pour rire. Je suis allé voir un paquet de monde en disant, moi, j'ai une idée, là. Moi, je vais faire un show, puis je vais prendre des demandes spéciales. Puis les gens ont pigé des tunes, puis, et ils m'ont tous dit à tour de rôle, ouais, mais les gens, ils vont pas acheter des tickets pour aller voir un spectacle qui savent pas c'est quoi le contenu.
Ouais.
Alors, quand tu y penses comme
ouais, exact.
C'était pas une réponse.
Tu peux pas dire, vous êtes cave d'avoir pensé ça. Non. C'est comme, c'est vrai que c'est bizarre comme proposition.
Après avoir écouté tout ça, je me suis dit, ouais, mais moi, je veux l'essayer. Ça fait des années que je fais ça, moi, dans la famille,
ouais,
dans des spectacles corporatifs. Fait que je suis devenu producteur de mon propre spectacle, pas parce que je me disais, je vais le faire mieux que les autres. Non, parce que les autres voulaient pas le faire. Puis, je suis un producteur de télé. Et c'est la même chose. Les quelques shows que j'ai eu en ondes dans les dernières années, Virtuose, Crescendo, c'est des shows que j'étais allé proposer,
oui,
à d'autres.
Tu mais te faisais dire non, pas vraiment.
Ils disaient, écoute, ça a de la valeur ce que tu veux faire, mais il n'y a jamais aucun diffuseur qui va mettre ça en ondes.
Ouais, ouais.
Ou bien ça vaut pas la peine parce que il n'y a pas assez d'argent là-dedans. Ou tu sais, la TV pour des jeunes. En tout cas, fait que finalement, c'est pas du tout une pierre que je lance aux autres producteurs. C'est
non,
juste
non.
Que. En bout de ligne, des fois, quand tu veux que quelque chose se fasse, faut que tu le fasses.
Ouais, c'est que toi, dans le fond, toi c'est que même. Tu fais le tour de tous ceux qui, normalement, auraient ce qu'il faut pour
serait
embarquer,
meilleur.
Puis tu te fais dire, bah, sais-tu quoi, on va passer notre tour.
Absolument. Puis ouais. Tu vois, j'ai fait des disques, j'en ai pas fait un million. Je suis tellement plus intéressé à ce que les autres font comme musique que ce que moi, je produis. Mais je suis devenu le producteur de mes propres disques pour exactement la même raison.
Ouais.
Les producteurs de disques m'ont fait comme, moi, mais t'es comme le gars que je vois dans Chambre à Ville. Pourquoi faire que les gens seraient intéressés à un disque? vous avez jusqu'à un certain point pas mal raison. Savez-vous, je vais l'essayer pareil. Et il y a des affaires qui ont marché. Dans tout ça. Fait que je suis pas un entrepreneur naturel, je suis un entrepreneur par
défaut.
Ouais, par obligation.
Ouais, par obligation. Revenons à la genèse du Grégory, si tu veux bien. petit garçon à Saint-Germain de Grantham, dans le comté de Drummond. À quoi tu rêvais quand t'étais petit? Tantôt, là, j'ai fait l'espèce de longue liste de tout ce que t'as fait, là. Quand t'étais petit, tu rêvais à quoi?
Être le troisième organiste du village. Ligne. Ma grand-mère était organiste.
Attends un peu, on veut juste s'assurer que c'est pas une blague, là.
Non, c'est pas une joke.
Ton grand rêve, c'était d'être le... Pourquoi troisième?
Parce que ma grand-mère était organiste du village.
OK.
Parce que de ça, ma tante, ma mère sont devenues la deuxième génération de ça. Puis moi, j'ai commencé très, très petit.
Fait que tu voulais suivre ça, là, être à mon tour.
Je trouvais ça parfaitement honorable.
T'avais quel âge?
Comme job. Oh, je vais avoir 5-6 ans quand ça a commencé. Puis ils ont commencé à me laisser jouer. Fait que j'accompagnais d'un mariage, mettons, la chanteuse qui arrivait le matin, qui fallait qu'elle chante l'Ave Maria de Schubert. Ben, elle avait plus de voix parce qu'elle avait bu la veille puis qu'elle avait eu du fun. Fait qu'il fallait jouer sans d'autres tonalités. Moi, la musique, ça a commencé comme ça.
À cet âge-là, tu pouvais jouer de l'orgue, des morceaux de cette envergure-là.
Et dans tous les tons, en plus, j'ai été élevé de même par des... il faut comprendre, là, des organismes... OK, tu comprends, l'église, ça a plus la même importance que ça avait auparavant, puis ça a pas la... Bon, ça va pas chercher le même. Mais tu sais, quand j'étais petit, moi, surtout dans les villages, tout le monde allait à l'église. Ah oui. Fait qu'il y avait 1 million d'occasions, des funérailles, des mariages, des n'importe quoi.
Ouais.
Et puis les organismes de village, c'est un peu comme les goalers au hockey ou les catchers au baseball. Tu sais, c'est des bébites particulières. Là. C'est pas des gens
qui... C'est le drummer du band.
Exact. C'est pas des gens qui font de la musique comme les autres. Mais moi, je viens d'une famille de gens comme ça qui faisaient... Ouais. Fait que je pensais faire ça. Puis ensuite de ça... quand j'ai commencé à aller à l'école, là, j'avais d'autres ambitions. Là. Je voulais être premier ministre.
Oh, OK.
Pardon,
c'est encore d'un projet.
Non, c'est pas encore d'un
projet. Rajoute ça pas à la liste de tantôt.
Oui, c'est beau. Les futurs premiers ministres, c'est ça.
Mais je trouvais ça vraiment fascinant. Mon grand-père maternel, est un bonhomme qui avait pas une grande éducation. Il avait une deuxième année. Il travaillait pour les chemins de fer. La politique, pour lui, c'était extrêmement important. Il était fier de qu'on avait la seule maison qu'il avait pas dans son entrée de garage faite parce qu'il avait jamais voté pour l'Union nationale. Qu'il était pas question qu'il se fasse acheter son vote. Alors, il était extrêmement fier et très, très, très engagé politiquement. Puis pas juste politiquement, étrangement, pour un gars qui était mon grand-père, bonhomme de 5 pieds 5, il était dru. Il était tout petit, mais il était capable de lever son frigidaire puis démonter son char. Puis c'est de cette génération-là.
Ouais.
Puis pour un gars qui était jamais sorti du Québec, ce qui se passait à travers le monde, ça l'intéressait de façon exceptionnelle. Moi, je raconte ça, là. Des fois, les gens, quand ils m'entendent parler de mes parents, de mes grands-parents, ils trouvent ça lourd. Ils disent, écoute, arrive dans le présent. Mais on est le résultat de ceux qui nous ont entourés.
Ben oui.
Puis moi, j'ai été entouré d'un père qui a marché avec Martin Luther King, puis d'une mère de 4 P11 qui s'est fait dire toute sa jeunesse qu'elle ferait jamais rien. Puis qui a essayé de prouver le contraire.
Ouais.
Fait qu'est-ce que tu veux? On devient animé parce qu'il a mis nos parents, nos grands-parents.
Mais c'est-tu des convictions qui te sont été injectées, je dirais, ou la notion du combat? Parce que tantôt, ce que tu disais, c'est intéressant. Combien d'artistes se font dire non, puis font, ben, finalement, ça marchera pas?
Ouais.
Toi, c'est comme non égalait juste que finalement, l'eau va couler à côté de la roche, là.
T'as totalement raison, Marc. Moi, je suis totalement convaincu que rien n'est impossible. Et je suis aussi convaincu qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Mais jamais. Il n'est jamais trop tôt non plus pour essayer, mais il n'est jamais trop tard pour essayer. Alors, j'ai une série d'affaires que j'ai faites qui n'ont pas marché parce que convaincu de ça. Et aussi une série d'affaires que j'ai faites qui ont marché parce que convaincu de ça. Mais dans tous les cas, et c'est pour ça que tantôt, je le disais, là, moi, je viens d'une famille de gens qui aiment les projets. Moi, j'aime les projets. Je carbure à démarrer et à essayer et à porter des projets à terme. Les réussir, c'est vraiment le fun. Les échouer, c'est moins le fun. Mais pas les faire, c'est inacceptable pour moi. J'essaye.
Ça t'es-tu déjà arrivé de te dire, oh, là, je n'ai trop parti, je n'ai trop pris, je suis à bout de souffle?
À bout de souffle, non, mais mon dernier cycle, mon cycle des 4 dernières années à peu près, là, ça a été ce que tu viens de décrire. Moi, ça fait des années que je veux percer le marché de nos voisins, le marché américain. Mm-hmm. Je me suis essayé en 2004, j'ai eu un pas pire succès, j'ai pas tout à fait bien joué mes cartes pour ce qui a suivi, parce que je suis revenu ici, puis là, il a fallu que je lâche ici, puis que je persiste là-bas, et peut-être que ça aurait marché, ou peut-être pas. Je suis retourné en 2009-2010, j'ai eu aussi un autre petit succès d'estime, des bonnes critiques, etc., mais j'étais pas allé assez loin. Fait qu'autour de 2014-2015, je me suis dit, hey, je retourne, là, j'y mets la gomme. Oui. Puis pendant que j'ai fait ça, j'ai acheté des théâtres, puis pendant que j'ai fait ça, j'ai acheté des radios, puis Là, j'ai multiplié les affaires en me disant que j'avais de l'expérience maintenant, puis j'étais capable de tout aligner ça pour que tout marche en même temps. Puis tout marche jamais en même temps. Puis tout marche jamais comme tu penses. Fait que je suis rentré en radio.
Ça, c'est Radio Classique.
Radio Classique. Mm-hmm. Parce que je suis un amoureux de radio, c'est essentiellement mon médium préféré. Mm. Mon acquisition s'est pas faite de la façon que je pensais. Je rentrais avec un partenaire, le partenaire est pas rentré finalement. Ça a changé complètement mes plans. Et là, t'as beau avoir eu du succès dans la vie puis avoir été relativement prudent et intelligent avec ton argent, tu peux quand même pas la multiplier par million. Puis là, j'étais aux États. C'est une année où la valeur du dollar canadien a chuté radicalement en l'espace de quelques semaines. On est passé de at par à 68.
Exact.
Là, moi, je suis pas comme un club de hockey qui prévoit ça en achetant de la...
Ouais.
Fait que là, je me suis fait prendre. Alors, je me suis fait prendre de plein de façons que je pouvais... J'aurais pu peut-être en partie prévoir, mais d'autres parties que je pouvais pas. Hey, moi, je suis allé à New York avec des théâtres, je me suis dit, hey, je le fais ici. Il n'y a pas de trouble à monter ça. Je suis arrivé là la première fois, il y avait un monsieur qui avait un cigare dans une limousine, là, qui attendait.
La vraie image.
La vraie image.
Incroyable.
Avec le... Ça va te prendre 50 camions de plus de béton là, pour... Non, mais regardez mon papier, là. Ça me prend 15 camions avec du béton pour assurer ma... Non, ça va t'en prendre 50 de plus. C'est ça la vie. Fait que tu prévois pas ces choses-là parce que tu penses pas que ça peut arriver, mais ça arrive. Et fait que je dirais que mon dernier cycle là, des 4 ans, là, ça a été un mélange de oh boy! Il y en avait 3 en même temps. Fait que là, il faut passer à travers. Puis là, comment se passer à travers quand t'es un entrepreneur? Tu crées. La nécessité est la mère de l'invention. Tu crées des nouvelles affaires, tu rationalises, tu fais des choix. Mes théâtres que j'aimais tant, les gens ont beaucoup entendu parler de ça, mes théâtres mobiles, mais je les ai vendus parce que j'étais pas capable de tenir tout ça en même temps. C'était pas nécessairement que ça marchait pas, mais à un moment donné, tu fais le calcul, attends, j'ai ça, peut juste marcher 8 mois par année parce qu'ils se manaient. Bon, mais c'est ça. Dans ce sens-là, je suis un vrai entrepreneur. Dans ce sens-là, d'être capable de dealer avec. Voici où je me suis placé. Il faut qu'on s'en sorte. Je suis comme un paquet d'autres. Totalement investi à 100%.
Ouais.
Et en parallèle de tous ces projets-là, ben, il y a la vraie vie aussi qui suit son cours puis qu'à un moment donné, qui nous fesse de côté sans qu'on l'ait trop vu venir. Tes deux parents ont été affligés par qui est une des plus grandes tragédies qui peut frapper un être humain. C'est la maladie d'Alzheimer. Donc t'as pris à un moment donné la décision là de consacrer ton temps à ta famille. La vraie question que j'ai envie de te poser, Grégory, c'est quand tes deux parents sont affligés de cette tragédie-là qui est la maladie d'Alzheimer, ça te traverse la tête de dire si bol et si moi j'en venais qu'à oublier.
Oui. Puis particulièrement dans une famille où rien oublier était si important, et dans une carrière comme la mienne où la mémoire a un tel rôle. Je sais, moi, ma carrière sur scène, j'ai aucune espèce de prétention d'être le meilleur chanteur sur la planète, mais je suis certainement l'encyclopédiste passionné.
Donc tu fais appel à ta mémoire comme ton premier outil.
Fait que l'idée de perdre ma mémoire, c'est épouvantable. Alors oui. Ça me passe par la tête, ça me préoccupe. D'ailleurs, je suis très impliqué sur le plan caritatif, sur le plan social, dans la recherche, puis dans l'aide. Bon, ça me traverse l'idée, mais je dirais pas que c'est la première affaire qui me traverse l'idée. Moi, bon, mes parents se sont aimés comme pas un. j'ai pas vu ça beaucoup.
Ouais, c'est ça, t'as pas vu ça beaucoup, là.
Ils se sont aimés beaucoup. Ils ont été des citoyens engagés, modèle, je trouve. Et ma mère, née ici, et mon père, venu d'ailleurs, ont été, je trouve, des citoyens très participatifs. Ils ont vécu des belles vies, finalement. Fait que, mm-hmm. les voir décliner et disparaître tranquillement, ouais, il y a une partie de préoccupation pour moi, mais il y a surtout un espèce d'appel à pas perdre une seconde, puis à faire comme eux. Puis à make it count, hein? fait que chaque seconde compte, puis que t'as participé, puis t'as vécu ça à plein. Effectivement, j'ai eu ma mère à la maison pendant plusieurs années, j'ai eu mon père à la maison pendant plusieurs années. J'aurais peut-être choisi que ça se passe à un moment où j'étais pas engagé comme entrepreneur ou comme artiste autant. Ma blonde, qui a une grosse job chez Microsoft, puis qui est très, très busy, aurait probablement souhaité que ça soit pas en même temps que l'espèce d'explosion de sa carrière. Mais qu'est-ce que on fait pas ces choix-là? Puis quelque part, s'occuper de ses parents, c'est un privilège.
Absolument.
C'est un privilège. Puis je le dis, là, je veux pas être canonisé. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vous écoutent régulièrement, qui sont dans cette situation-là.
Ben, mon père est mort de l'Alzheimer.
Bon, ben, alors, t'sais, on est tous pareils. On est tous, si on n'est pas déjà aidant naturel, on est susceptible de l'être. Moi, je pense régulièrement aux, c'est presque 75% des aidants naturels qui sont des femmes monoparentales. Moi, j'étais pas monoparental. Moi, j'ai une blonde fantastique qui a adopté mes parents comme si c'était les siens. Mm. Le bon là-dedans, c'est que ma fille a eu la chance de côtoyer, malgré leur maladie, ses parents. Mais t'as raison, la prémisse de ta question était la bonne. Ça, c'est la vraie vie. Puis ça rentre pas dans un projet entrepreneurial.
Non.
Je dis pas, tiens, on va faire ça. Ils vont être malades, ça va rentrer là.
Ouais.
Je vais m'en, tu sais,
c'est pas perdre tes profits, là, dans ton bilan de l'année.
Mais ça, c'est pareil pour tout le monde, t'sais. Alors, j'ai des employés, moi, dans la vie, je vois bien comment c'est leur famille. Alors ça, on y fait face, c'est la vraie vie. Puis, je regrette, c'est drôle, parce que hier, mes neveux, mon neveu, ma nièce et ma fille, sans vouloir être méchants, subitement, ils ont dit, hey, on est tous des enfants ici. Ah, sauf papa, qui lui a plus de maman, il a plus de papa.
Ouais. Ouais.
Et tu y penses pas régulièrement, mais je me disais, ouais, c'est bien trop vrai. Mm. Je suis maintenant l'aîné.
Ouais.
Le patriarche, finalement, de mon côté de la famille.
Mm-hmm. Ça t'empêche pas de faire des shows?
Non, je dirais que ça m'anime plus.
Et là, 30 novembre, t'es au Palais Montcalm.
Puis tu vois, on aurait voulu faire un meilleur segue, là, on aurait voulu faire un meilleur lien, que ça serait pas possible. Le show que je fais au Palais Montcalm, d'abord, moi j'ai parti plein de shows cette année. Je sais que c'est débile, là. J'ai parti un show qui s'appelle Vintage 69. Je voulais le faire il y a 2 ans, mais la maladie de mes parents m'a empêché de faire ça. Alors, on a parti ça il y a pas très très longtemps, ça marche, on est en tournée un peu partout. Je fais un show qui s'appelle Music Man dans les casinos un peu partout en Amérique et au Canada.
Ah, tu joues ailleurs que le circuit des casinos du Québec?
Absolument.
Ah bon, je savais pas ça.
Je joue aux États, je joue en Ontario, je joue dans le reste du Canada.
OK.
Et évidemment, dans les casinos ici. Moi, je suis associé, vous êtes au casino du Québec. Puis l'autre show que je commence à Québec, l'air du temps, mais ça, c'est vraiment... un coup de chapeau à ma mère. Quand j'avais 9 ans, là, j'ai ma troisième année.
Quand t'as fini ton doctorat en chimie, hein?
Non, pas du tout, mais c'est drôle que tu dises ça parce que tu vois, cette année-là, il y avait un projet pilote à mon école.
Pour vrai?
Et le projet pilote, c'était moins d'intervention des professeurs, puis les meilleurs étudiants, élèves, étaient appelés à enseigner aux élèves qui avaient plus de difficultés. Ce qui est, dans un Québec chrétien, vraiment le fun, ma mère trouvait pas ça drôle pas tout. Ma mère est allée voir la direction pour leur dire, écoutez, si votre objectif, c'est que notre fils enseigne aux autres, là, c'est cool, mais on l'envoyait à l'école pour qu'ils apprennent. Fait qu'on va le garder à la maison. Fait que ma mère m'a gardé à la maison cette année-là.
Sérieux?
Bon, alors il y a des gens qui écoutent, ils vont dire, ouais, c'est pas super généreux, mais qu'est-ce que tu veux? Ma mère, pour elle, l'éducation, c'était super important, puis elle s'est dit, c'était pas pour apprendre cette année. Alors, on a commencé cette année-là, puis elle m'a dit... ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va apprendre les bébelles par groupe de 10 minutes. C'était ça son idée.
Ouais.
Fait qu'on faisait 10 minutes d'histoire, on faisait 10 minutes de français puis de dictée. On faisait 10 minutes. 10 minutes d'art visuel. Là où j'apprenais sur l'impressionniste, le cubiste, le machin. Puis c'était ma mère, c'est une fille ordinaire de la campagne, là, qui a pas de doctorat, là. Ouais. Bon. Ben, elle s'est dit aussi, on va faire 10 minutes à tous les jours de la musique qui a été publiée, composée ou popularisée dans les 200 années qui ont précédé ta naissance. C'est son idée. Fait qu'on va retourner à 1768. Puis à tous les jours, là, on va regarder ce qui s'est fait dans une de ces années-là. Fait qu'au bout de mon année, là, je connaissais...
Non, mais elle savait ça de où? Il n'y avait pas Internet?
Ah, elle faisait de la recherche.
Sérieux?
Elle faisait de la recherche. Ma mère était tout le temps dans les encyclopédies, dans les magasins, elle était tout le temps en train de faire de la recherche.
God.
Ma mère, son principe, c'était, mon fils ne sera pas bloqué par ma limite à moi.
Okay.
Fait que je vais apprendre. Fait que cette année-là, là, elle faisait de l'espagnol avec moi. Elle parlait pas partout d'espagnol, là. Elle s'est appris l'espagnol cette année-là pour m'enseigner. Fait que ça a été ça, sa méthode. Là, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que, donc, toute ma jeunesse, ma mère...
Parce que t'oses pas dire que t'as été séquestré à 9 ans. C'est ça que tu veux.
En fait, je regrette qu'elle ait pas fait ça l'année précédente aussi. Ça a été ça vaut beaucoup la peine d'aller à l'école puis de côtoyer d'autres pour pas devenir complètement, tu sais, je suis déjà un peu particulier, j'aurais été vraiment j'aurais vraiment été nerd si j'avais pas eu accès à d'autres. Et mais n'empêche que donc toute ma jeunesse, ma mère, j'allais à la banque avec elle, tu sais, on est un peu plus vieux, on se rappelle de l'époque où on allait faire des affaires pour vrai, là, ça se faisait pas en ligne. et en attendant, elle me disait 1924, dans le mode de la musique qui a été faite cette année-là. Fait que, 1771, tu sais. Alors, fait que je faisais ça tous les jours, puis c'est resté dans ma tête. Et ce qu'il y a de bon de ça, c'est que ma compréhension de la musique et mon amour encyclopédique de la musique dépend vraiment de ça.
Okay.
De la compréhension que la musique classique puis le blues, c'est concurrent. C'est-à-dire, ça arrive en même temps. Puis, c'est que le jazz, la chanson populaire, surtout la chanson francophone, française populaire, puis la musique classique, mais plus romantique et post-romantique, c'est en même temps. Tu sais, souvent, les gens, quand tu penses à la musique, ils disent, le classique, ça, c'est les dinosaures, parce que ça,
t'sais,
mais c'est pas vrai, c'est tout concurrent, cette musique-là.
Okay.
Puis, tu sais, il y a beaucoup de la musique classique qu'on écoute aujourd'hui, qui a été compliquée. Par exemple, là, mon chum Hervieux, là, qui fait des spectacles, qui se fait demander Nessun Dorma de Puccini, puis etc. Ben, c'est concurrent. J'attendrai, puis Nessun Dorma, c'est la même année, là, la chanson de Dalida. Là.
Ouais.
Bon, c'est la même année. Fait que ça m'a permis d'avoir une compréhension de la musique qui est vraiment, j'ai envie de dire, globale. Fait que, ayant fait ça toute ma vie, et en voyant ma mère s'en aller, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai pas fait qui a rapport avec ça? Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait. Alors, j'ai fait un show simple, L'air du temps, que je roule quand même depuis un petit bout de temps, mais que j'ai jamais fait au Québec. Que je roule depuis un petit bout de temps, et la prémisse, c'est, je rentre sur scène, et je demande aux gens de me donner une année, de 1768 jusqu'à aujourd'hui. Puis pour chacune des années qu'ils me donnent, je leur joue la musique qui a été composée ou popularisé cette année-là. Fait qu'il y a du pop, il y a du hip-hop, il y a du, tu sais, il y a du baroque, il y a du classique, il y a du jazz, il y a toutes ces affaires-là. Et la raison pour laquelle je le commence à Québec, c'est parce que je fais des shows interactifs depuis longtemps et la ville qui m'a donné le plus de fil à retordre, pas juste au Québec là, mais dans le monde.
Ça veut dire du fil à retordre?
La population de Québec, pour de vrai, là, je vais vous annoncer quelque chose ou déclarer quelque chose que vous saviez pas, là.
Okay.
La population de Québec est weird.
Bon, si on se fait tout le temps dire qu'on est mystérieux à Québec.
Non, mais je vais vous dire qu'est-ce que je veux dire. Bon, moi, je prends des demandes spéciales depuis la fin des années 90. Québec, c'est la ville qui m'a demandé la plus grande variété d'affaires.
Oh.
Les gens à Québec, c'est, on le sait déjà, là. Oui, ils aiment Scorpions, puis ils aiment, Def, puis puis Rammstein, puis etc. Ils aiment des affaires que tout le monde n'aime pas nécessairement. Mais à Québec, se retrouve aussi, des gens qui trippent sur, les albums inédits de Léo Ferré, là. Pis t'as une certaine partie de la population qui a continué à suivre la musique de Michael Jackson pendant que le monde entier avait arrêté, là, tu sais, dans les années 90. Pis ça jouait des radios dans les années 90, alors que, à Montréal, ça ne jouait plus. Pis, tu sais, Caillouche, quand même, ça vient pas de Québec, mais ça se rend pas nécessairement plus au sud, tu sais, que, ou plus à l'ouest. Alors, parce que j'ai toujours à travailler fort. J'ai pigé au-dessus de 12 000 tonnes dans les 20 dernières années. En
12 000?
12 000. Et j'ai échoué 41 fois.
Et sur, laisses-tu, là?
Je t'en laisse pas penser.
Sur 12 000, t'as 41 fait.
J'ai 41 fait. Hey. Oui. Et il faut que je vous dise, sur les 41, j'en ai 34 qui sont à Québec.
Absolument. C'est incroyable.
C'est nous autres qui a réussi à planter Grégory Charles le plus souvent.
Non, mais sérieux, c'est... Hey, ça, c'est hot que tu dis ça.
Mais non, mais c'est parce que... Faut comprendre, Québec, c'est vraiment une plateforme, une ville plateforme qui a, oui, de l'intérêt pour la musique anglophone, qu'elle soit anglo... Tu sais, les gens de Québec aiment beaucoup la musique anglo-saxonne aussi. Puis tu sais, Styx, puis Supertramp, puis...
Mon frère écoutait ça à côté, ce que tu viens de dire.
Puis tu sais, Québec, ça marche à Montréal aussi, mais à Québec, ça marche à fond. Oui. Tu sais, t'as des affaires comme Chris de Berg, tu sais, ça marche. T'arrives pas à comprendre exactement pourquoi ça s'est rendu là, puis mais ça marche.
Ouais.
Alors, c'est pas que Québec est une ville francophone exclusive, pas du tout. Il y a de l'intérêt pour d'autres affaires. Regarde Rammstein, ça marche pas partout à Montréal, mais ça marche à fond à Québec.
À côté.
Et est-ce qu'il y a une partie de la population de Québec qui est germanophone à ce point-là? Pas partout.
C'est ça.
Mais alors, il y a quelque chose de le fun de cette ville-là qui a une espèce d'intérêt tout azimut pour plein d'affaires, y compris de la musique classique.
Ça veut dire que c'est un rodage plus difficile. Ah, tu te mets vraiment plus en danger que d'aller devant... C'est comme l'humoriste qui dit, moi, quand je vais à Trois-Rivières, ça rit à mort. Toi, tu fais l'inverse.
Je fais l'inverse. Moi, je vais dans la ville où ça a toujours été le plus exigeant.
Mais c'est pas qu'il aime pas ce que tu fais.
Ah ben non.
Si je comprends bien.
Ça fonctionne très bien.
Non, exactement. Ben oui, puis je le sais pour l'avoir vu, c'est qu'à Québec, t'as l'impression qu'on te défie plus.
Absolument.
C'est carrément ça.
Pis, et que l'intérêt pour la musique est très, très large.
Ouais, très varié.
C'est très varié, très large. Et dans le temps aussi. C'est-à-dire, on pense toujours à Montréal, de combien il y a des orchestres symphoniques, puis il y a ci, puis il y a ça. Mais tu sais, Québec, c'est pas une super grande ville. C'est une grande ville. On capote pas, je suis pas en train de dire que c'est un village. Mais, il y a...
C'est pas une métropole.
Il y a les Violons du Roi, puis il y a l'Orchestre symphonique de Québec, puis il y a un festival d'opéra, puis tu sais, il y a du jazz.
Ouais. Ben oui.
Et le Palais Montcalm lui-même, c'est un lieu fabuleux. C'est moi, ce que je trouve le fun, c'est... Les gens, ils vont peut-être me demander des années au fin du 18e, début du 19e, milieu du 19e siècle. Il y a quand même un orgue, tu sais, un orgue fantastique. Ça, je m'empêcherai pas, là, s'ils me demandent des années qui concordent pour aller... C'était ça mon lieu. De jouer de là. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça à Québec. Il y a là-dedans une espèce d'hommage maternel, mais il y a aussi une espèce de défi. Là, vous avez trouvé que je referme toutes les questions que vous m'avez posées. Il y a un défi de mémoire. Puis, tu sais, tantôt, vous m'avez demandé, est-ce que j'ai peur? Oui. Mais en tout cas, pendant que j'en ai, je vais l'utiliser à fond.
Ouais, ouais.
Puis, je pense pas qu'il y ait un autre épais qui va se dire, moi, je vais aller faire ça, me planter devant le monde, puis leur demander de me demander n'importe quelle année, puis je vais leur jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est les liens qu'on est capable de faire après entre ce qui a été écrit en 2015 puis qui a été popularisé, puis ce qui a été fait 30 ans, 40 ans plus tôt, des fois 100 ans plus tôt. La musique, c'est le meilleur véhicule de notre histoire. Moi, je suis totalement convaincu que les livres d'histoire se trompent des fois sur qui on est, mais la musique se trompe jamais. T'sais, si on retourne voir l'histoire dans les années 90, mettons, là, 1990, là, les gens vont se dire, oui, c'est une époque où le Québec a changé un peu, mais la musique crie haut et fort ce qui s'est passé. Ça a été le choc entre la ruralité puis le monde urbain,
ouais,
entre la ville puis la campagne. C'est là que ça commence. Puis comme par hasard, t'as un coloc avec la rue principale. Puis avec ce choc-là entre le monde urbain puis la ruralité, il y a toute la question de la démarche spirituelle puis de la religion. Et comme par hasard, dans ces années-là, t'as Sauvé mon âme de Luc La Rochelière, puis Si Dieu existe, puis là, à la fin de cette décennie-là, les années 90, après un référendum en plein milieu qui est arrivé à quasiment 50-50, à toute fin pratique, ben la toune de la fin de cette décennie-là, c'est une toune des respectables. Moi, je suis un amalgame. Oh, by the way, l'année du référendum, by the way, là, juste par hasard, l'année du référendum de 95, c'est quoi la toune la plus populaire qui vient d'ici? I Lost My Baby, une toune de Jean Leloup, vraiment un de nos génies de la musique.
Qui parle d'une relation d'amour entre un gars de Québec et une fille d'Ottawa.
Exactement, et en anglais. Puis là, tu parles de ça à Jean Leloup, il va pas dire partout que c'est un témoignage politique.
Non, je pense pas.
Mais la musique dit ça. Je donne un dernier exemple. Les gens dans les livres d'histoire nous disent que la Révolution tranquille, ça a commencé en 1960. Mais la musique nous dit pas ça. Parce que en 1960, les tunes les plus populaires au Québec, c'était encore Non, je ne regrette rien d'Édith Piaf, Mon Dieu d'Édith Piaf en 61, et maintenant, que vais-je faire de Gilbert Bécaud en 60 encore, troisième chanson populaire au Québec là, dans les palmarès, que c'est triste Venise, autant des amours. C'est ça là qui se passe comme musique en 60. Mais en 62, subitement, là, tout ce monde-là disparaît. C'est Michel Richard, c'est Pierre Lalonde, c'est la danse à Saint-Dilon sur les palmarès en 1962. C'est clair que 62, c'est la vraie année où le Québec change. Et c'est normal que ce soit comme ça. Parce qu'en 62, les gens qui n'ont pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui sont nés en 45, ils ont 17 ans, ils ont envie d'avoir du fun, sont tannés des tunes slow, de réflexion intérieure, de profondeur, puis ils ont envie de... Puis, et il n'y a pas de musique francophone qui fournit ça. Fait qu'ils ont le même réflexe partout dans le monde. Ils vont emprunter de la musique.
C'est là que les baronnets, Roger Angélil avec sa gang, tout.
Absolument, les baronnets, puis les Classelles, puis tous les autres, ça commence en 60. Alors, tu vois, la musique souvent te dit ça. Puis là, je veux pas faire un témoignage politique non plus, mais l'arrivée du Parti québécois est en retard sur la musique. Tu sais, quand le Parti québécois est élu pour la première fois en 76, la musique nous dit que la démarche nationaliste québécoise est déjà un peu... est déjà dépassé. Tu sais, le Labrador de Claude Dubois, puis tu sais, je reviendrai à Montréal, puis toutes ces affaires-là, ce qui date de 68, 69, 70, puis ensuite de ça, tu sais, 71, 72, t'as comme une espèce d'affirmation, OK, ben quoi, t'as toute cette la maudite machine, puis ces affaires, tout ça, là, ce sont des chansons politisées, très nationalistes, du début des années 70. Quand le PQ arrive en 76, on est déjà plus là. On est déjà dans du rock progressif, de harmonium, tu sais, puis bon, on est ailleurs. Alors moi, là, ça me passionne, que la musique nous décrive.
Comme un marqueur.
Je suis subjugué. Je t'écouterais me parler de l'histoire de la musique, Grégory, pendant des heures. Ça me brise le cœur. Faut qu'on parte en pause. C'est déjà tout le temps qu'on avait.
Y a-tu jasé une demi-heure?
Oui, facile.
Non, excuse-moi. Y a-tu jasé une demi-heure?
Ben, je pense que j'ai posé deux questions. Non, non.
Ah oui, non, 9:33 quand même.
Grégory Charles, ça a vraiment été un grand plaisir de partager ce moment-là avec
vous
toi.
Vous êtes très généreux de m'avoir invité. Merci beaucoup.
On fait quoi de spécial, nous autres? T'as-tu remarqué? On écoute les invités.
Absolument. Puis en plus, vous nous laissez du temps. C'est extraordinaire. Merci.
Ben, on remet ça anytime et puis l'appel est lancé. 30 novembre, 20h au Palais Montcalm pour le spectacle L'air du temps. Grégory Charles, merci beaucoup.
Merci à vous deux.